Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, hola todos, ciao a tutti, good afternoon everyone. Oui, je sais, c'est impressionnant, je maîtrise plusieurs langues, comme notre héros du jour, un joueur qui sait comment s'exprimer, comment marquer, comment gagner, lui, dans plusieurs langues. Un certain Cristiano Ronaldo est à la une de Radio Foot. Pourquoi ? Car il est aussi à la une de France Football, un célèbre hebdomadaire auquel CR7, comme on l'appelle, a accordé une longue interview. France Football, journal qui a déjà délivré au Portugais 5 ballons d'or, ballons d'or en français dans le texte. L'entretien est intéressant, à plus d'un titre. On émane un Cristiano Ronaldo déterminé, confiant, rien de nouveau sur ce plan-là. Mais également un Cristiano Ronaldo sage, adepte de la méditation. Ça, c'est une surprise. Au final, un Cristiano Ronaldo plutôt sympathique, peut-être plus malin dans la gestion de son image qu'un certain Lionel Messi. Le pavé dans la mare est lancé, les réseaux peuvent s'enflammer. Nos invités, eux, vont nous éclairer. Avec nous aujourd'hui, des gens qui parlent moins de langues que CR7, j'en suis sûr, mais qui parlent la langue qui importe, la langue du football, et ils la parlent merveilleusement bien. Vous parlez aussi picard, mon cher Naïm Moniol.
Exactement.
C'est dire si vos talents sont nombreux. Bonjour.
C'est dire si je suis polyvalent.
Dommage qu'il n'ait pas dit bonjour en picard.
La macho. Ouais. Ah,
d'accord. Superbe, superbe. Bonjour Philippe Doucet.
Kenavo, Hugo.
Ah, vous, c'est le breton.
Bah oui. Bah oui.
Et personne n'est parfait, tu sais.
Non, non, mais ça arrive à des gens très bien.
Patrick Juillard, un peu de
Nissard, mais. Oui. Ouais, mais. Non,
c'est d'accord. Trop compliqué. Alors, on va se contenter d'un simple bonjour.
Puis je connais surtout les insultes en Issard. Alors, donc, ça, non, on va éviter.
On va bonjour, éviter. Hugo. Bonjour tout de même. Bonjour, Thomas Moulin.
Bonjour, Hugo. Bonjour à tous.
La Serie A et Arsenal nous occuperont également ce mardi. Le programme est riche. Merci à David Finzel pour sa préparation. Merci à Laurent Salerno pour ses réalisations.
Dentro del área la pone Carvajal, el remate de tijera de Cristiano, ¡qué golazo! ¡Oh!
C'est même chanté, Cristiano Ronaldo. Incroyable. C'est pas son talent le plus probant, a priori, mais il sait chanter. Il sait surtout marquer des buts en portugais, en espagnol, en anglais et même en français. Tout le monde, toute la planète admire le quintuple Ballon d'Or. Ballon d'Or France Football, et c'est justement dans les pages de l'hebdomadaire que tout le monde peut lire CR7 ce mardi, un entretien, une interview réalisée par Thierry Marchand, notre confrère. Un avis rapide, une impression sur cette lecture du jour, mon cher Naïm Moniol, en quelques mots.
Alors d'abord rare, parce que c'est pas quelqu'un qui s'exprime énormément de manière fleuve comme il le fait, et à un mois et demi, deux mois maintenant du Ballon d'Or, j'y vois une petite coïncidence.
Une petite campagne, ouais. Campagne personnelle peut-être. Philippe Doucet, votre avis sur cette interview de Cristiano Ronaldo ?
Que je n'ai pas lu en longueur, j'ai lu que des extraits. Moi j'ai aimé juste un mot qui parle d'intelligence. C'était un mot qu'on n'évoque jamais dans le football. Alors que
c'est même en
fondamental.
Une, hein, il faut être intelligent, ouais, pour durer.
C'est, tout à fait, c'est un très c'est bon choix de la part de France Football. J'ai bien aimé qu'ils mettent en avant ça, enfin que France Football mette en avant ça, parce qu'on parle toujours, alors il est puissant, il est vite, il est bon devant le but, il est ceci, il est cela. Tout ça est très bien, mais si on n'est pas intelligent, on ne fait pas une grande carrière. Et Ronaldo est un exemple parmi un certain nombre.
Patrick Juillard, vous êtes intelligent vous aussi. Qu'en avez-vous tiré ?
J'en ai tiré que c'était très intéressant à lire, qu'il y a beaucoup d'éléments très éclairants sur sa carrière et notamment ses choix, mais je trouve, on en parlera après, qu'il réarrange un peu l'histoire à sa sauce. Il arrange des choses a posteriori, mais on pourra en reparler.
On parlera justement de sa communication. Dans cet entretien accordé à France Football, Ronaldo nous dit qu'à 19-20 ans, il a compris que le football, c'était des chiffres, des titres, des records. Je crois qu'il a très bien appris la leçon, Thomas Moulin.
Effectivement, hein, je vais essayer de pas vous abrutir de chiffres justement, mais c'est vrai que Ronaldo, c'est un peu
avec lui, oui.
Une machine à buts et à records. Il a franchi, hein, vous le savez, il y a pas très longtemps, la barre des 700 buts en carrière, 701 précisément, donc 95 avec le Portugal, dont il est le meilleur buteur de l'histoire, meilleur buteur de l'histoire aussi de la Ligue des Champions, 128 buts, et puis de l'histoire aussi du Real Madrid, 450 buts en 9 ans passés dans la capitale espagnole, dont 311 en 292 matchs de Liga. Puis il a un palmarès hors norme, il a gagné partout où il est passé. 3 fois champion d'Angleterre avec Manchester United, 2 Ligas, la Serie A la saison dernière avec la Juventus, 5 Ligues des Champions, l'Euro 2016, on s'en souvient. Et comme vous l'avez rappelé, Hugo, 5 fois vainqueur du Ballon d'Or France Football.
Bon, ça c'est pour ceux qui ont vécu sur Mars, sur Saturne, sur Pluton, lors des 10 années précédentes. Une archive avant le débat, messieurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a quelques années, un certain Sepp Blatter dirigeait la FIFA. On va se faire plaisir, on va écouter. Sepp Blatter, ne me remerciez pas.
They are both exceptional players. Lionel Messi,
ils sont tous les deux des joueurs exceptionnels. Lionel Messi est un bon garçon. Tous les parents du monde aimeraient avoir un petit garçon comme ça à la maison. C'est un bon gars. Il va vite. Il n'est pas exubérant. Il joue formidablement bien. On dirait qu'il danse. C'est vraiment un homme bon, un gars gentil, un brave garçon. L'autre, par contre, c'est vraiment autre chose. On dirait un commandant sur le terrain. Oui, oui, un commandant sur le terrain. L'un dépense plus chez son coiffeur que l'autre, mais je ne peux pas dire qui est le meilleur.
Blatter en 2013 et en roue libre surtout devant des étudiants de l'université d'Oxford. En roue libre au moment de se lancer dans une comparaison entre Lionel Messi, SIC, voilà c'est comme ça qu'il appelle Léo Messi, le sympa donc, le sympa Messi, et Ronaldo qui serait un robot, un chef armé sur le terrain, en gros qui serait pas très très sympa lui. À l'époque on se disait qu'un président de la FIFA ne devait pas dire ça, mais on se disait également, et pour lui accorder ça à Blatter, on se disait également que le Suisse exprimait tout haut ce que beaucoup d'observateurs et de supporters pensaient tout bas. Messi était sympa, Ronaldo un peu moins, et on a l'impression que ça a un peu changé. Vous en pensez quoi, Emmanuel?
Malheureusement, je pense que Cristiano Ronaldo, dans sa carrière, a un peu empâti de son image. C'est-à-dire que c'est un garçon très doué, très beau, très riche, qui n'hésite pas à le montrer, qui a beaucoup fait de manière directe ou indirecte pour la presse People, qui est sorti avec des mannequins, des actrices, dont on a dit beaucoup de choses, donc... C'est un peu, c'est toujours quelque chose de dérangeant, le succès, quand on a à peu près tout et qu'on en a plus que les autres, ça dérange. Donc, il a eu cette image un peu de type froid, un peu abrupt, très prétentieux, très imbu, un peu le robot, le machin, en plus il a quand même un physique pour lui. À côté de Lionel Messi, qui t'as un garçon très discret, je vais pas dire fluet, mais en tout cas un peu effacé, avec,
qui est très, un peu dans la lune aussi.
Voilà, qui a été très tôt, père de famille avec sa femme, voilà, ils aimaient bien un peu montrer leur vie de famille, tout ça. Donc, c'est vrai que malheureusement, l'image de Cristiano Ronaldo, sur une large partie de sa carrière, l'a un peu desservi. Peut-être que ça change actuellement, peut-être que à un moment donné, on s'incline aussi devant le talent et devant les résultats. Quand on voit son talent, quand on voit ce qu'il gagne, on l'a répété, quand on voit tout ce qu'il a apporté au football, bah on s'incline quand même un petit peu devant l'évidence. Et peut-être que avec la maturité aidant, avec une communication un peu comme celle-là, peut-être que ça change. Mais c'est vrai que pendant longtemps, il a un peu empâti de son image.
Mais est-ce qu'au-delà des chiffres, du talent incontestable, des accomplissements incontestables, il n'y a pas un travail de communication à travers notamment des interviews comme celle qu'il a accordée à France Football, Philippe Doucet?
Sur le tard, oui. C'est-à-dire sur les 5, 7, 8 dernières années, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à l'ensemble de sa carrière, une petite moitié de sa carrière, il est devenu un homme de communication. Il ne l'était pas tant que ça avant. Il avait un côté un peu bad boy quand il était jeune. Ça, tout le monde l'a oublié, évidemment. Ça remonte à loin. Quand il est arrivé à Manchester, il était encore un peu bad boy, un peu... Il venait d'un quartier très, très, très populaire, plutôt bas de gamme de Lisbonne. C'était pas la grande classe. Et c'est un type qui s'est poli petit à petit. Alors après, est-ce qu'il fait trop de communication aujourd'hui? Peut-être. En tout cas, moi, je trouve que l'opposition la plus fréquente qu'on entend, c'est Messi, le très doué. Alors, c'est facile, hein, le talent facile, c'est évident. N'importe qui peut faire ce que fait Messi.
Oui,
s'il
et
est
qui
doué,
jouerait de manière un peu détachée.
Doué, quoi, voilà.
Qui jouerait
et
un match
Ronaldo,
des champions
le,
comme
le
dans la
travailleur. Et puis Ronaldo, le travailleur. Alors que tout ça est à nuancer, évidemment. Messi a bossé, évidemment, sinon il ne serait pas arrivé. Évidemment que Ronaldo était formidablement doué, Naïm vient de le dire, formidablement doué dès le départ. Dès le début, tout le monde a vu que c'était un joueur phénoménal. Tout le monde l'a vu tout de suite. Donc c'est étonnant qu'il y ait des clichés comme ça qui perdurent, et je pense qu'il y en a aussi qui perdurent sur sa personnalité.
Mais tu sais, ce que tu dis, c'est intéressant, parce que si aussi Cristiano a eu cette image un peu de type qui bûchait tout le temps, très fort physiquement, l'athlète 3.0, je vais caricaturer, mais pas tant que ça, c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup montré son corps. Ça revient un peu à son...
C'est quelque chose d'un peu narcissique.
Et bien sûr, c'est quelqu'un toujours très narcissique, et puis les photos en sous-vêtements, les abdos, et puis on montre ses muscles sur toutes les photos de vestiaire. Donc il a tellement exhibé un corps d'athlète qu'on a fait un type très athlétique qui bossait tout le temps, machin, tout ça. C'est vrai que c'est un athlète formidable. À son âge, faire ce qu'il fait, moi, quand je le vois sauter, que je vois rester 2 secondes en l'air, je me dis c'est quand même très fort. Je fais un peu de sport dans la vie, je peux vous dire qu'être gainé comme ça, faut quand même y aller. Mais Philippe a raison, Messi aussi l'a fait. Messi aussi physiquement est un athlète. On fait pas la carrière qu'il fait sans être doué physiquement. Et Ronaldo a d'autres qualités que des abdos, bien sûr.
Non mais Patrick Juillard. Moi, pour moi, cette interview est intéressante parce qu'il dit pour durer et pour faire la carrière qu'il a fait, il faut être intelligent. C'est vrai. Et il dit, j'ai vite compris qu'il fallait faire certaines choses, qu'il fallait mettre certaines choses en ordre pour arriver très haut et obtenir les statistiques que j'ai obtenues.
Mais moi
justement, il explique beaucoup qu'il est conscient de son potentiel, mais je crois surtout que sa réussite, c'est parce qu'il est conscient de ses limites. Je m'explique, à Manchester United, c'était un joueur qui jouait sur un côté, qui couvrait énormément de terrain, qui faisait marquer des buts plus qu'il n'en marquait, donc qui était vraiment un peu le maître à jouer de l'équipe. Sans lui, l'équipe était moins forte. Depuis quelques années, depuis en gros qu'il a la trentaine,
depuis
pratiquement le Real Madrid,
dernière année à Manchester, il commence à marquer des buts.
À être égoïste. Mais c'est pas marquer des buts, c'est une chose, mais c'est surtout changer de registre. Et pourquoi il change de registre? Non pas parce qu'il comprend qu'il peut marquer des buts, ça il l'a compris à 18 ans, mais parce qu'il comprend qu'il ne pourra pas durer longtemps s'il continue d'être un joueur qui court autant que ce qu'il faisait avec Sir Alex Ferguson, et qu'il faut qu'il soit plus économique dans son jeu. Il explique aussi dans l'interview, c'est intéressant, si je pouvais choisir, je ne jouerais que les très gros matchs, que la Ligue des Champions et les matchs de sélection. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il veut donner le meilleur et il sait que s'il est à fond tout le temps de la première à la 38e journée de chaque saison, il ne pourra pas. Et ça, c'est l'intelligence pour moi, elle est là, mais il se garde bien de le dire dans l'interview.
Alors, attendez,
c'est pour ça que je disais qu'il avait la... Parfois,
il avait sa vision
des choses à sa sauce.
De l'histoire, bon, c'est entre guillemets de bonne guerre. Je reviens sur la comparaison avec Messi. Il y a eu des petites polémiques, des bruits concernant Messi qui serait un petit peu un petit chef dans le vestiaire du Barça, qui aurait mal accueilli Griezmann. On n'entend pas ce genre de choses avec Cristiano Ronaldo. Messi, en 2015, il gagne un 5e ballon d'or. À ce moment-là, Ronaldo en a 2 de retard. Finalement, il refait son retard. Il gagne même des titres avec sa sélection, ce que ne parvient pas à faire Messi. Est-ce que, voilà, dans les dernières années, il n'y a pas eu, dans le duel symbolique que se livrent les deux joueurs, il n'y a pas eu une petite avance prise par Cristiano Ronaldo?
Vous pensez que Cristiano Ronaldo n'a jamais fait en sorte que Benzema joue avec lui et fait en sorte qu'Higuain ne joue plus avec lui? Je pense qu'il l'a fait aussi. Alors c'est peut-être moins visible, on le sait peut-être moins que Messi, mais parce que Ronaldo n'a pas d'histoire avec le Real comme Messi a une histoire avec le Barça. C'est pas l'enfant du Real comme Messi est l'enfant du Barça. C'est aussi ça. Bien sûr, quand vous avez un joueur comme ça, vous l'articulez autour de lui. Tous les grands entraîneurs, les entraîneurs qui ont réussi avec lui, l'ont fait. Même Ferguson à Manchester le faisait, et pourtant il avait Giggs et Scholes. Donc bien sûr qu'il faut le faire. Après, peut-être que, comme vous le dites, avec l'évolution dans le temps, peut-être que ça a changé. Patrick a raison de dire un truc, c'est que à Madrid, il a compris ses limites. Je pense que c'est devenu, Ronaldo, un tueur d'une efficacité incroyable à Madrid. Extraordinaire, ces chiffres le prouvent, vous l'avez rappelé, tout ça. Mais le vrai beau joueur Ronaldo, c'est le Ronaldo de Manchester.
Bien sûr.
C'est celui qui pouvait éliminer 3-4 joueurs derrière son pied d'appui, qui était déjà entouré de très beaux joueurs. Parce qu'on dit, à Madrid, il est bien entouré. Vous savez, à Manchester, il y avait Scholes, il y avait Giggs, il y avait Rooney, il y avait Van Nistelrooy. Il y avait deux, trois mecs quand même, hein. Et le vrai grand joueur Ronaldo, c'était
absolument
à Manchester.
Et ça, on l'oublie.
Là, il a créé sa légende. Elle s'est fortifiée, bonifiée au Real Madrid. Mais au Real Madrid, tous les entraîneurs qu'il a eus, successivement, ont tout fait pour le mettre dans les meilleures conditions, à commencer par les mecs autour de lui, par son positionnement sur le terrain. Lorsqu'il avait des petits coups de sang et qu'il commençait à dire qu'il allait à droite à gauche, on lui refaisait un contrat avec une rallonge. Tout ça a fonctionné pendant des années. Ronaldo, comme Messi au Barça, c'est un système.
C'est un système, ce sont aussi des choix, une gestion de la carrière.
Il y a tout simplement
et ça,
carrière.
C'est quelque chose aussi qui restera.
Messi,
plus c'est chez Ronaldo que chez Messi.
Naïm a raison de le souligner, c'est fondamental. Messi, c'est l'homme et le joueur d'un seul club. C'est l'homme Barça. C'est le pro.
Mais est-ce que ça le dessert pas, ça, un peu en termes d'aura?
Ça le dessert pour une raison simple, c'est qu'au final, sa carrière est proche de son terme, hein, quand même. Elle est en tout cas plus proche de la fin que du début. Et il n'aura, si les choses en restent là, gagné des titres et des trophées en nombre énorme, mais que avec le Barça. Il ne l'a jamais fait pour l'instant avec son équipe nationale. Ce que, rappelons-le, Ronaldo a fait avec le Portugal et ce qui contribue aussi à rehausser un peu son prestige par rapport à Messi. Et il n'aura pas eu le courage ou l'envie ou le besoin peut-être d'aller se remettre en cause en exportant son football dans un autre championnat.
Et
ce qui est fort chez Ronaldo, c'est que partout où il a posé ses bagages, il s'est imposé comme le meilleur joueur du championnat du coin.
Thomas Moulin. Ouais, je sais pas ce qu'en pensent nos consultants, mais peut-être là où ces dernières années Ronaldo a vraiment montré une force peut-être supplémentaire par rapport à Messi, c'est le mental. Non seulement c'est un athlète hors norme, mais mentalement il a réussi toujours à gagner. Il s'est remis de l'échec aussi de 2004 avec le Portugal pour gagner en 2016, comme l'a rappelé Patrick. Donc mentalement, c'est vraiment un joueur complet, abouti.
Non, pour être à ce niveau-là, les deux sont évidemment des monstres. C'est comme ceux qui veulent arbitrer entre Nadal et Federer. Allez-y, bonne chance.
C'est ce que j'allais vous dire. Je me faisais l'avocat de Ronaldo pour alimenter le débat. Oui, mais est-ce qu'au fond, on ne doit pas simplement profiter du fait qu'ils sont tous les deux là en même temps?
Bien, évidemment qu'il faut savoir en profiter, mais bon.
Sans les opposer continuellement.
C'est
difficile de ne pas les opposer.
C'est difficile de ne pas les opposer. Et en plus, cette rivalité, elle a nourri. Elle a nourri des années formidables. On s'en souviendra comme des années formidables parce qu'il y avait les deux à la fois. Il y aurait eu un des deux, ça aurait déjà été formidable. Mais avoir les deux au même moment et pratiquement à la même époque, à deux ans près, ils ont deux ans d'écart. Et dans le même championnat, et dans les deux grands clubs.
C'est le football qui gagne. Messi, Ronaldo, si vous accumulez les titres, c'est l'hégémonie du Real et du Barça sur le foot mondial. C'est l'hégémonie de Messi et Ronaldo.
Et c'est une époque qui est en train d'être évolue d'ailleurs. Ce qui est marrant dans ce que dit Patrick, c'est que c'est Patrick qui pourtant pas si jeune que ça, et le représentant de son époque. C'est-à-dire, Ronaldo, vous vous rendez compte, il a gagné dans plusieurs pays, donc c'est beaucoup mieux, etc. Pour moi, qui suis d'une autre époque visiblement, un mec d'un seul club,
Philippe,
c'est génial.
Je suis d'accord.
Génial, mais ça vaut beaucoup plus.
Non, mais Philippe.
Se renouveler sans arrêt dans un seul club. Plutôt que d'aller gagner à la Juve, gagner au Real. Gagner à Manchester à son époque, tout le monde le fait.
Philippe, être d'un seul club quand on est du Barça, qui est un des plus grands clubs du monde. Je préfère un joueur d'un seul club à Caen ou à Toulouse qu'au Barça. Pour moi, c'est plus admirable.
Même Totti avec
la Roma.
Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que Messi et Ronaldo, ce sont deux visions du football, tout simplement.
C'est deux visions du football, mais ils ont un point commun.
Qui enrichissent le jeu.
Dont on n'a pas parlé, dont on parle finalement pas énormément, c'est qu'ils ont un super entourage. Ils ont déjà le même entourage depuis très longtemps, et c'est surtout un entourage stable. On parle de Cristiano Ronaldo. Une des grandes forces de la carrière de Cristiano Ronaldo, c'est que sa vie privée, sa vie people, même disons-le clairement, n'a jamais pris le pas sur sa carrière comme d'autres joueurs qu'on annonce comme étant les meilleurs du monde et qui le sont peut-être beaucoup moins à cause de ça aujourd'hui. Hashtag Neymar.
C'est pour ça qu'ils sont là.
Et on va rappeler aussi, pour ne pas être trop complaisant, que les deux, Messi et Ronaldo, ont quelques casseroles judiciaires et fiscales.
Il faut quand même le
souligner avant de dire qu'ils sont absolument parfaits sur tous les points.
Ah, mais moi, j'ai pas dit qu'ils étaient parfaits, mais vous nous avez pas dit est-ce qu'ils sont parfaits, vous nous avez dit est-ce que ce sont des grands joueurs.
Voilà.
On a parlé de football. On n'a pas parlé.
Une citation de Ronaldo pour presque conclure le sujet. Mon but, c'est de rester jeune en vieillissant. Une leçon pour Thomas, Naïm et moi-même, et puis un hommage indirect et même direct à Philippe et à Patrick.
Quand on est jeune, votre devise. C'est gentil.
Quand on
a droit au cœur.
Il a un petit peu d'argent pour le faire, donc c'est plutôt pas mal.
on en a un petit peu aussi. Soyons honnêtes.
C'est vrai que physiquement, il est dans un état exceptionnel.
C'est exceptionnel.
C'est un athlète absolument incroyable qui préfigure, et je ne veux pas le réduire à ça, surtout pas, parce que évidemment tout le monde va considérer que si je dis ça, on le réduit à ça, ce qui est absurde. Mais il restera, je pense, comme le joueur qui préfigurera le futur joueur de foot. Ouais. Alors que Messi ne préfigurera rien, parce que Messi sera unique, toujours.
Elle est très vite là, le
techniquement, bon affaire. Alors techniquement, non, parce que ça s'apprend évidemment, mais je pense qu'un athlète, j'aimerais le voir dans d'autres sports. Sur le seul plan athlétique, je pense qu'il pourrait rivaliser avec beaucoup d'athlètes dans d'autres disciplines.
L'actualité de Cristiano Ronaldo, outre l'interview dans France Football, c'est qu'il n'a pas joué le dernier match de la Juventus Turin le week-end dernier. Ah oui, là on redescend de quelques, niveaux. À Lecce, hein, partout, sans Cristiano Ronaldo. Donc, l'Inter Milan... Au passage, n'a pas profité hein, de ce faux pas de la vieille dame. Match nul de partout contre Parme avec une réalisation de l'Ivoirien Gervinho. Au passage, un Ivoirien âgé. On parlera d'un de ses jeunes compatriotes, d'un de ses petits frères tout à l'heure. La vieille dame, toujours en tête de la Serie A. Ciao, Matteo Cioffi. Matteo Cioffi.
Bonsoir.
Est-il là? Bonsoir, mon cher. Matteo, au passage, on profite de vous avoir. La Ronaldomania, qui avait débuté à l'été 2018, hein, il avait quitté le Real pour aller à la Juventus Turin. La Ronaldomania est-elle toujours aussi forte dans le Piémont?
Absolument, oui. Il n'y a pas de doute. Ronaldo reste l'homme au plus de cette équipe. Et on l'a vu même samedi. C'est vrai que Paul Dybala est en excellente forme. Mais quand Cristiano Ronaldo n'est pas sur le terrain, il y a quelque chose qui cloche. Et donc, voilà, Ronaldo, l'héros des bianconeri. Et Ronaldo, l'héros aussi des caisses financières du club. C'est quelqu'un qui sait comment enrichir son club. Je vous donne quelques chiffres. À partir du moment où il a débarqué à Turin, on a vendu 1,3 million de maillots avec son nom. En plus, depuis qu'il est arrivé, la Juve a augmenté le nombre de ses tifosi dans le monde, qui sont montés de 38 millions d'unités entre mai 2018 et mai 2019. La Juve est donc devenue le huitième club le plus aimé au monde avec 423 millions de supporters. Vous voyez,
Ronaldo,
immense.
Matteo, Ronaldo, 35 ans, il n'a pas joué ce week-end, on l'économise maintenant du côté de Turin.
Oui, on l'économise. Moi, j'en ai 47, mais je suis encore en bonne forme et personne ne se pose la question si je joue pas le week-end avec mes amis. Mais bon.
Donc, vous économisez pas dans le foot.
Oui, on s'est posé tous la question. Voilà. Écoutez, oui, on s'est posé la question pourquoi il n'est pas sur le terrain. C'est le même Maurizio Sarri qui a voulu répondre en disant que tous les joueurs de son équipe ont besoin d'un moment pour se reposer, car ils doivent être au top lors des matchs qui vraiment comptent. Sa pensée, bien entendu, est allée à la Ligue des Champions et tout ce qui se passera autour de cette compétition. Donc, Ronaldo n'est pas blessé. Si vous voulez savoir s'il est blessé, il n'est pas blessé. Il est en excellente forme. Il continue à s'entraîner. Et en plus, il est très content de cette interview avec France Football, qui pourrait être vue aussi comme, disons, une consacration vers un sixième ballon d'or.
On n'en est pas là.
Et on a souligné cet article.
Oui, alors j'ai délibérément évité le sujet, parce que c'est un autre débat. Et là, clairement, on ne pourrait pas aborder tout ce qu'on avait prévu d'aborder dans cette émission si on s'était engagé sur cette voie. La neuvième journée de Serie A, Matteo Cioffi, un dérapage, bien sûr, qui a fait beaucoup parler lui aussi, celui de Franck Ribéry sous le maillot de la Fiorentina contre la Lazio. Vous nous racontez cette histoire, une bousculade avec l'arbitre. Alors ça, c'est
l'assistant.
C'est pas bien. Ça a été pas vraiment... Oui, ça n'était pas vraiment sa soirée au Franck Ribéry. Il était très nerveux sur le terrain, mais aussi en dehors, lorsque Vincenzo Montella a décidé de le remplacer à 15 minutes de la fin. Les Français a très mal réagi, a commencé un dialogue, a dialogué de manière, disons, très chaude avec son technicien. Mais ça c'est rien, ça, disons, c'est la normalité, c'est des choses qui arrivent. Le geste le plus grave est celui qui a été commis à la fin de la rencontre, quand Ribéry est couru vers l'arbitre de touche et pour deux fois il l'a poussé. Donc sanction pour lui, 3 journées de suspension. On le revoit donc en décembre. C'est quelque chose qui un peu gâche tout ce qui a fait Franck Ribéry depuis qu'il est arrivé à Florence, et ce sont vraiment des belles choses.
Oui, Ribéry qui a bien joué, qui a bien soigné sa communication. Décidément, on y revient en parlant italien d'entrée, en se faisant accueillir. Alors ça, c'est pas forcément lui qui l'avait décidé, mais par les tifosi dès l'aéroport. Mais on avait peut-être un peu oublié cet aspect de sa personnalité. C'est aussi un sanguin, un impulsif.
C'est surtout un sanguin, un impulsif.
Oui,
c'est un peu le défaut de ses qualités. Franck, c'est un garçon qui est très passionné, qui adore le football, qui veut continuer à jouer, qui s'implique toujours à 100%, qui, lui, pour le coup, pareil, a une très bonne hygiène de vie, se soigne très bien et veut jouer le plus possible. Et forcément, quand vous avez cet état d'esprit de vainqueur, de champion, bah, quand ça tourne pas en votre faveur, vous décapsulez un petit peu, c'est normal. Donc, il l'a fait 2-3 fois en Allemagne. Il a eu des mots, je pense, à au moins une fois avec tous ses entraîneurs. Bah, ça arrive là parce que le match tournait pas comme il voulait, parce qu'il a été sorti, parce que les circonstances du match aussi ont fait qu'il s'est un peu énervé. Mais non, moi, j'ai pas oublié. Ça fait partie intégrante de Franck Ribéry. C'est aussi pour ça que c'est devenu le Kaiser en Allemagne.
Et c'est un joueur qui est loin d'être un jeune joueur, 36 ans, on parle plutôt d'un vétéran, c'est normal de se comporter comme ça à 36 ans, Philippe Doucet?
Non, c'est
sans
pas
donner
normal.
De leçon de morale, mais...
Bah oui, c'est un peu la tendance dans notre pays, on aime bien, et on peut pas, à géométrie variable d'ailleurs, parce que Zidane finalement, bon, c'est juste un coup de tête contre quelqu'un qui a insulté sa sœur, alors que le rugbyman, c'est honteux, c'est incroyable, c'est absolument hallucinant. On met beaucoup de leçons de morale derrière tout ça. Voilà, c'est un type qui pète un câble. Il pète un câble, voilà, tout simplement.
Et il a.
Oh, il s'énerve. C'est véhément quand même.
Ouais, mais moi.
Apparemment, il a été. Il a pris 3 matchs. Immédiatement sanctionné, car les Italiens sont extrêmement intelligents. Ils ont un système comme les Anglais et comme tous les grands pays de football, d'ailleurs, sauf nous, quoi, en gros. C'est-à-dire qu'ils sanctionnent tout de suite. C'est-à-dire que tout de suite,
ils n'attendent pas la réunion d'une commission
15 jours après, qui va reporter, parce que finalement l'acteur n'est pas là, parce que ceci, parce que cela. Pendant ce temps-là, le joueur joue, pendant ce temps-là...
Il y a des polémiques dans la presse.
Il y a des polémiques partout. Ouais. Quand tout d'un coup il est jugé, on ne sait plus ce qui s'est passé.
Là, les 3 matchs de suspension, c'est arrivé.
Moi, je trouve que ce qu'a dit Naïm est juste. Ribéry a toujours été et sera toujours quelqu'un de sanguin, d'impulsif et parfois incontrôlable. Là, c'est effectivement arrivé. Il a eu des gestes de trop, il a pris le bras de l'arbitre assistant, il a été véhément, il est sanctionné, il n'y a rien à dire, c'est normal, lui-même ne contestera pas, il a tenté, il a quand même pris la parole sur les réseaux sociaux en disant je tiens vraiment à m'excuser, je me suis mal comporté.
Il a eu raison de faire ça.
Oui, mais il espérait sans doute que ça susciterait de la clémence. Bon, visiblement, c'est pas le cas puisqu'il prend 3 matchs.
Moi, je trouve que c'est un peu de clémence. Hein.
Ah bon?
Envoyer un arbitre à 1 mètre, repousser un arbitre
davantage.
À 1 mètre,
3 matchs, mais 3 matchs, c'est beaucoup.
En France, il aurait pris 8.
Moi, je pense que, alors, c'est dommage pour la Fiorentina.
En Coupe de France, il aurait pris 2 ans.
Ouais, je pense que.
Dans une compétition de la fédération, il aurait pris 2 ans.
Ouais. 3 matchs, il s'en sort plutôt bien. C'est dommage pour la Fiorentina, parce que. Tu perds Ribéry, il faut dire, il y a 2 buts, 2 passes décisives.
En plus, la Fiorentina, nonobstant les super performances de Ribéry, n'est pas très très bien.
9e au classement, là.
Ils sont sur une bonne dynamique et qu'il est utile à l'équipe, mais 3 matchs pour ce qu'il a fait, il s'en sort très bien. Rappelle-toi, Leonardo, avec l'arbitre du match contre Valenciennes, combien il a été suspendu. Ok, c'est un dirigeant et on est en France.
Plusieurs mois et c'était...
Et je pense que le coup d'épaule qu'il avait mis était quand même... Je pense moins brutal que quand Ribéry l'a poussé.
C'est un autre débat, bien évidemment. Autre événement du week-end, le carton de l'Atalanta face à l'Udinese. 7-1. Un très jeune Ivoirien a fait trembler les filets à cette occasion.
Campo c'è anche il giovane Traoré, talentino di cui si dice un gran bene, entrato al posto di Ilicic. 6-1 per l'Atalanta.
This is Traoré and he's got a goal. The 17-year-old off the bench and on the score sheet.
Gol del giovanissimo Traoré. Atalanta 7, Udinese 1.
Je n'arrive pas à parler parce que je suis vraiment très ému. Au moment de mon entrée sur le terrain, j'ai prié et encore prié. J'étais agité au moment où j'ai mis le pied sur la pelouse et j'ai pensé, j'ai choisi de faire ce métier, mais pourquoi devrais-je avoir peur? Et puis j'ai réussi à marquer. Je ne crois pas avoir fait quelque chose d'incroyable. C'est mon premier but, ça restera toujours gravé dans ma tête, mais maintenant, il faut continuer dans cette direction.
Le premier but est la joie d'Amad Diallo Traoré, 17 ans à peine, jeune espoir de l'Atalanta Bergame, auteur de la dernière réalisation de son équipe ce week-end, 7-1, donc je le rappelle, face à l'Udinese. Qui est-il ce jeune Traoré, Matteo Cioffi?
Alors, il est né à Abidjan le 11 juillet 2002, donc il a 17 ans. Il est arrivé très jeune en Italie, à Parme. Il s'est tout de suite fait remarquer par sa façon de jouer au foot. Le premier qui s'en est aperçu a été Giovanni Galli, l'ancien gardien de la Nazionale et de la Milan d'Arrigo Sacchi. Galli lui a donc proposé de faire un test chez les espoirs du club de la Lucchese, qui joue en 4 division, mais le même Galli a tout de suite compris que la Lucchese c'était pas vraiment pour lui car il était trop fort selon lui pour jouer à ce niveau. Il a donc proposé à l'Atalanta, il a commencé à jouer à l'Atalanta, il est devenu disons le leader de la primavera de l'Atalanta. Hier dimanche il est rentré sur la pelouse et il a eu besoin seulement de 6 minutes pour rentrer dans l'histoire du calcio avec ses buts qui fait de lui actuellement le plus jeune buteur de la Serie A.
C'est un sacré exploit. Vous le connaissiez, Patrick Juillard, ce joueur?
Moi, je connaissais surtout son grand frère,
qui joue aussi en Italie.
Ahmed Junior Traoré, qui lui est né en 2000 et qui avait été brillantissime, je trouve, la saison dernière avec Empoli. Empoli qui avait un milieu de terrain 100% africain l'année dernière, puisqu'il y avait également Ismaël Benacer et Afrié Akwa, le Ghanéen, qui jouait un peu le taulier au milieu des deux jeunes loups. Et j'ai découvert en Youth League la semaine dernière ce jeune Ahmad, qui a 2 ans de moins que son grand frère qui maintenant joue à Sassuolo, et qui avait été au centre d'un imbroglio puisqu'il avait été dans un premier temps transféré à la Fiorentina et puis l'accord avait été déclaré caduc. Bref, mais ce jeune Ahmad, là, j'ai vu son but en Youth League avec une chevauchée digne de Messi, mais c'est un talent exceptionnel. Ça rappelle un peu l'éclosion brutale de Ansu Fati avec le Barça, quoi. C'est des joueurs un peu météorites comme ça, petit gabarit, appui très court, centre de gravité très bas, très dur à marquer pour un défenseur, et il a surtout en plus une frappe de balle apparemment dévastatrice.
Voilà qui est 10 tirs au but. Vous êtes d'accord,
ouais,
Naïm?
Absolument, parce que alors on va bien se garder de prédire sa carrière, faut évidemment qu'il se fasse une place, mais ce qui est sûr c'est qu'au regard de ce qu'il fait en Youth League, de ce qu'il fait en championnat des jeunes, cette saison, il a le niveau pour jouer au-dessus largement, même à 17 ans, même si physiquement je pense qu'il peut encore prendre un peu s'épaissir. Sur le talent pur, vous voyez le but qu'il a marqué quand vous faites une roulette, un crochet sur 1m50 dans une surface face à une équipe professionnelle. Même si vous menez 6-1, c'est quand même pas mal. Donc il a toutes les qualités pour intégrer le groupe pro, puisqu'il n'y était pas jusqu'à présent. Je pense qu'avec le calendrier qu'attend l'Atalanta au moins jusqu'au mois de décembre, on va le voir un peu plus, donc c'est une très bonne nouvelle. On dit toujours on ne fait pas jouer les jeunes en Italie, ben la preuve que si.
L'Atalanta est un club réputé pour ça, hein, quand même.
Et en plus, c'est une équipe qui propose du jeu, parce que je pense qu'avec des garçons notamment comme Papou Gomez, il va s'amuser un peu.
Et on aime bien les fratries talentueuses, hein, en Côte d'Ivoire, les Kalou, les Touré, peut-être les Traoré, je m'enflamme évidemment.
À suivre. L'Atalanta. Il faut qu'ils lisent tous l'interview de Ronaldo s'ils veulent durer.
Oui, c'est vrai, c'est plein de bons conseils qu'on aurait dû peut-être suivre un peu plus tôt dans notre,
nous-mêmes,
dans notre carrière. C'est un petit peu tard
niveau gabarit, c'est pas les mêmes que Cristiano Ronaldo, par contre. Hein,
vous parlez de moi là encore?
Non, les deux frères ivoiriens dont on vient de parler.
L'Atalanta, Matteo Cioffi, il a raison, Patrick, troisième de Serie A, la surprise de la saison passée qui confirme qu'il y a eu un peu plus de mal en Ligue des Champions avec cette défaite 5-1 face à Manchester
City. Sans mal jouer.
Et qui a reçu même les compliments, les encouragements de Pep Guardiola, qui a parlé d'un adversaire coriace. L'Atalanta confirme, Matteo.
Oui, en effet, surprise, ça fait désormais 3 ans qu'on fait semblant de s'étonner devant l'Atalanta. L'Atalanta est une réalité, il faut le souligner. Et c'est vraiment toujours un plaisir de regarder jouer cette équipe qui mérite totalement d'occuper la 3e place. Atalanta, c'est l'emblème d'une ville passionnée pour le football, d'un collectif de joueurs qui sont aperçus comme des vrais héros. Si vous allez à Bergame et vous parlez avec les supporters et vous nommez, je sais pas, Papou Gomez, l'Argentin, bah vous voyez les yeux qui brillent. Il y a vraiment on aime vraiment cette équipe et ses joueurs. Donc Atalanta, c'est aussi, disons, le petit qui lutte contre les grands. C'est un peu Goliath qui lutte contre Goliath, et ça montre que même si on est petit, on arrive de temps en temps à gagner. Et en Italie, cette philosophie et mentalité a été acquise. En Europe, il faut encore y travailler, vu le résultat très modeste en Ligue des Champions.
Matteo, avant de vous quitter, un mot sur votre ville, Milan. On va pas parler du Milan à proprement parler, on va parler de la ville Milan, du stade surtout, Matteo Cioffi, San Siro, Giuseppe Meazza, ça dépend. La mythique enceinte que se partagent le Milan AC et l'Inter, eh bien le conseil municipal veut la sauver. Il est question de la détruire pour construire un nouveau stade, mais le conseil municipal s'y oppose, Matteo.
Oui, hier soir, le conseil municipal a décidé que le stade de San Siro ne sera pas démoli, donc ne sera pas détruit, et deviendra un lieu, on ne sait pas encore très bien, mais un lieu de loisirs où il y aura des activités sportives, où on trouvera des magasins, peut-être des restaurants, peut-être des activités pour les plus jeunes. On ne sait pas encore, de toute façon, il ne sera pas démoli. En même temps, le conseil municipal a approuvé le projet du nouveau stade proposé par l'Inter et la Milan, mais aussi demandé d'observer 16 conditions, dont celle de réduire la volumétrie de la nouvelle enceinte. Et cette condition pourrait être
la capacité à accueillir des spectateurs, c'est ça ? Il faudra que ce soit plus petit que prévu.
Non, voilà, le bruit, je pense.
Le bruit, d'accord.
Oui, c'est le bruit, oui. Ouais.
Le bruit bah oui, et la bruit. Dimension, le deux. Donc, ça pourrait être un handicap parce que l'Inter et Milan rêvent, disons, de construire un espace plus grand pour construire des magasins, des restaurants et faire du business. Donc, la discussion est encore ouverte et on n'est pas proche de la solution finale, à mon avis.
Question sur encore attendre.
De toute façon, San Siro est là, il restera là, il ne mourra pas.
Alors, c'est une bonne nouvelle, non ? C'est une enceinte absolument mythique, oui. Et c'est intéressant de voir qu'un stade de football peut être traité finalement comme un monument historique.
Il y en a marre de tous ces présidents de clubs qui veulent toujours marquer leur empreinte, être des présidents bâtisseurs et construire des stades. Quand vous avez un stade comme San Siro, vous le faites évoluer, vous le modernisez, vous n'avez pas besoin de construire un nouveau stade. Ça me rappelle le président Kita à Nantes, qui a le stade de la Beaujoire, qui est un stade qui date quand même du milieu des années 80, donc c'est pas, il a pas 70 ans, et qui voulait faire son nouveau stade juste à côté. Non, pour faire du business quand on est dans le foot, c'est pas par l'immobilier qu'on en fait, c'est en gérant, en formant intelligemment, en achetant intelligemment et en vendant intelligemment, mais pas par des opérations immobilières. Donc, tant mieux si San Siro est sauvé, et tant mieux si ces projets pharaoniques sont abandonnés.
Mais San Siro est quand même, Patrick, désolé de te le dire, c'est un très vieux stade dans sa construction.
C'est un Fabrice, c'est un vieux stade.
Oui, mais très très rénové, ce qui est malheureusement, San Siro n'a pas du tout été rénové. Il a été mal rénové dans les années 90.
On n'est pas obligé de le détruire pour autant.
Alors, mais je reprends la formule d'Hugo. Apparemment, on va en faire un musée plus qu'autre chose, parce que mine de rien, des éléphants blancs de cette taille-là, ça prend de la place. Alors, elle a beau être mythique, cette enceinte, si c'est pas pour jouer au foot... Excusez-moi, ça va pas être facile. Si on peut faire, oui, on peut grimper, on peut mettre des cordes, on peut grimper au toit, je sais pas.
Enfin, non, mais on peut garder l'emplacement et refaire le stade.
Là, c'est plus le même stade.
L'idée, c'est
pas.
Là, c'est autre chose, le projet des.
L'idée, c'est pas non plus de se couper du public, parce que détruire une enceinte comme ça, ça représente tellement de choses pour le club et pour les supporters, que déjà que la situation du Milan est pas terrible, déjà que c'est suffisamment le bordel, excuse-moi l'expression, dans l'organigramme, si en plus les mecs se mettent la grande partie du public ado, en défonçant le stade, je suis pas sûr que ça marche les masses. Donc, le rénover, oui, mais après, le problème de San Siro, c'est un peu le problème de la plupart des stades en Italie, c'est qu'ils sont tous très vétustes.
Mais ils ont été mal maintenus, en fait.
Pendant très longtemps, on a négligé les stades.
Il y a un contre-exemple, c'est la Juve.
Oui, la Juve.
C'est un succès fantastique.
La Juve, oui.
Donc, tout le monde est obligé de se poser la question en disant, on a fait fausse route à garder ce nouveau stade.
Je veux bien, parce que ce que tu dis est vrai, Philippe. Mais la Juve est dans une situation sportive nettement supérieure à des équipes comme
Parce que pour moi,
ça aide beaucoup.
Attendez. C'est économique, le succès.
Il y a une autre différence. La Juve est maîtresse de son stade. Elle est seule à l'utiliser. Ouais. Là, le nouveau stade et San Siro est utilisé par deux clubs qui doivent se mettre d'accord. Donc, ça complique le problème. Ils peuvent pas décider tout seuls l'un pour l'autre. Ils doivent se mettre d'accord au préalable. Il y a le conseil municipal. Parce qu'en plus, la Juve est propriétaire de son nouveau stade. C'est un stade privé. Là, c'est pas le cas. Donc, c'est très compliqué.
Si le Milan AC n'avait pas dépensé 250 millions en deux ans de déficit, ils ont dépensé plus que ça, et ben ils auraient peut-être un stade privé à leur appartenant.
Vous êtes en train de faire du mal au cœur de notre Matteo Cioffi national, le Milan. 12e, je vous l'avais promis, on ne va pas en parler, mon cher Matteo Cioffi, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie, d'autant que l'Inter est deuxième et aurait pu passer leader le week-end dernier. Merci Matteo Cioffi d'avoir été avec nous.
Merci, merci à vous et bonne journée, vive San Siro.
Vive San Siro, ce sera le mot de la fin pour cette partie, cette large partie, cette belle partie consacrée à la Serie A dans Radio Foot.
Allez, la sortie côté Arsenal, c'est Granit Xhaka, le capitaine. Quelle image sifflée par l'Emirates Stadium qui lui ordonne de quitter le terrain plus rapidement. Granit Xhaka qui tend l'oreille. Regardez les huées. Xhaka qui va en jeter son maillot et directement rentrer au vestiaire. Vous avez pu lire sur ses lèvres une insulte. Fuck off. Allez vous faire voir, c'est ce que ça veut dire.
Décidément, elle est plurilinguistique, cette émission ce mardi. Les malheurs d'Arsenal, le malheur de celui qui est encore le capitaine des Gunners, officiellement le Suisse Granit Xhaka, pris en grippe par ses supporters donc à l'occasion du match nul de son équipe contre Crystal Palace de partout. Granit Xhaka qui n'a pas raté sa sortie à l'heure de jeu, le buzz il est bien là. Une nouvelle difficulté pour un joueur dont le parcours sous le maillot rouge et blanc des canonniers n'a pas été de tout repos jusqu'ici, Thomas Moulin.
Oui, on s'en rappelle, transféré du Borussia Mönchengladbach pour 45 millions d'euros à l'été 2016, il est devenu un peu aux yeux des supporters le symbole de cet Arsenal incapable de retrouver la Ligue des Champions depuis deux ans. 16 buts, 17 passes décisives en un peu plus de 3 saisons, toutes compétitions confondues, et surtout un joueur qui fait souvent preuve de nervosité, donc toujours au moins une dizaine de cartons jaunes par saison, même si effectivement peut-être le poste de milieu récupérateur qui veut ça. Puis il avait déjà créé la polémique, on s'en souvient, lors du dernier mondial, imitant l'aigle albanais avec les mains lors du but égalisateur de la Suisse, sa sélection contre la Serbie. À 27 ans, messieurs, est-ce que Granit Xhaka a encore un avenir avec les Gunners d'Arsenal?
Ouais, je pense que c'est pas l'histoire du maillot jeté qui interrompt son avis ou qui met en sursis son avenir à Arsenal. Je pense que c'est un garçon qui a malheureusement est un échec, disons-le clairement.
C'est quand même surprenant parce que là, l'attitude, elle est violente. Oui, la sortie du terrain, vous nous dites, ça remet pas particulièrement en cause. On se souvient qu'un Cantona,
on n'est pas en train de se demander si Granit Xhaka a un avenir à Arsenal parce qu'il a acheté son maillot. La question depuis depuis plusieurs semaines, c'est est-ce qu'il a encore un avenir à Arsenal avec les prestations qu'il a? C'est un garçon qui prend beaucoup de rouge, qui a concédé beaucoup de coups francs qui malheureusement sont transformés en buts, qui en plus mis sur le banc, qui a un temps de jeu qui est en train de s'amenuiser, parce que Matteo Guendouzi a fait son trou à Arsenal. Et aujourd'hui, je pense que le simple fait de l'avoir nommé capitaine est une erreur. Une erreur assumée par Unai Emery, mais une erreur.
Une erreur d'Unai Emery, donc on va écouter Unai Emery, la réaction à la polémique, à l'attitude de Granit Xhaka au moment de sa sortie de la pelouse.
We are working, me and the club and inside.
Nous travaillons, le club et moi, avec chaque joueur pour gérer la pression. Nous devons garder la tête froide parce que sa réaction a été mauvaise. Nous parlerons de cette réaction avec tout le monde, les joueurs et le club. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons des supporters. Nous sommes les employés qui représentent cette institution, mais nous jouons pour eux. Nous nous devons d'avoir beaucoup de respect pour eux, quand ils nous applaudissent, mais aussi quand ils nous critiquent.
Philippe Doucet, vous savez ce que c'est de diriger un club? Bon, pas forcément un club de la stature d'Arsenal. Néanmoins, est-ce que c'est une bonne réaction, celle d'Unai Emery, de rappeler que les supporters, ce ne sont pas que des spectateurs, c'est eux aussi qui font le club et on peut pas se comporter de la sorte avec eux?
Oui, bon, ça, c'est sa posture de communication et il l'a bien fait. On va pas, y a rien à dire là-dessus. Mais par contre, moi, je pense exactement le contraire de Naïm. Les Anglais sont ultra sensibles à tout ce qui atteint le club et je pense que même je pense que non seulement pour Xhaka, l'image qu'il a donnée est terrible et beaucoup plus impardonnable que le reste, parce que le public d'Arsenal, moi je l'ai entendu depuis 3 ans, je les entends à chaque fois que Xhaka est à 45 mètres du but, commence à lui demander de tirer au but parce qu'il a une grosse frappe. Bon, c'en est ridicule, c'en est grotesque. Donc c'est pas un public de connaisseurs, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Par contre, c'est un public qui est très attaché à l'institution, le fameux mot qui est très répété aujourd'hui, est très attaché au club, et donc ça, il ne supportera pas, et il ne supportera pas non plus. Et pour Emery, je peux vous dire qu'il était déjà en séance de rattrapage, parce que avoir mis capitaine un type qui se comporte comme ça, pour lui, ça peut être beaucoup plus grave pour son futur à Arsenal, beaucoup plus grave que des mauvais résultats.
Oui, car Thomas Moulin, à Arsenal, ça ne va pas, que ce soit pour Unai Emery, autant que pour le club en général.
Oui, mais ce match contre Crystal Palace, ça rappelle un peu le scénario contre Watford le mois dernier, c'est-à-dire un Arsenal qui mène rapidement de deux buts et puis qui se fait rejoindre en seconde période. Il y a des problèmes offensifs, hein, l'adaptation de Pepe, la blessure de Lacazette, et surtout cette incapacité à tenir un résultat, hormis contre Bournemouth, hein, une timide victoire à domicile avant la trêve, 1-0. Une seule victoire sur les quatre derniers matchs de Première Ligue. En Europa League, tout va bien, mais en Première Ligue, cinquième à 4 points du podium, Chelsea et Leicester. La situation n'est pas encore catastrophique, mais il ne faudrait pas prendre plus de retard.
Cinquième à 4 points du podium, je suis désolé de vous couper. Quand on se rappelle des dernières saisons d'Arsenal, ça va. Hein.
Ça va, mais dans le jeu, c'est pas bon.
Dans
le jeu, c'est pas bon. Dans le jeu, c'est pas bon. Il y a des clubs comme Leicester, par exemple, qui sont a priori pas aussi bien outillés qu'Arsenal, qui sont largement au-dessus dans le jeu et en termes de nombre de points. Donc Arsenal est encore en train de passer à côté. Il y a des joueurs comme Lacazette, Aubameyang, qui refusent des prolongations, qui tardent à re-signer parce qu'ils savent pas trop s'ils vont s'inscrire dans la durée d'Arsenal. Au contraire de Xhaka qui lui avait re-signé pour 5 ans en 2018, donc là ils l'ont pour un bon bout de temps. Une exfiltration, ça coûtera cher au club qui le prendrait, donc ça va pas être facile. Tout ça a été assez mal géré. Moi je pense que c'est dans la suite logique du déclin d'Arsenal. Ça a commencé l'année où Leicester a été champion, où Arsenal avait une fenêtre de tir en quelque sorte pour réintégrer vraiment le Big Four, et ils ne l'ont pas fait. Et depuis, ça va de mal en pis. Je trouve qu'il n'y a plus vraiment d'identité de jeu dans cette équipe.
Le problème,
c'est qu'on voyait avec Arsène Wenger, on pouvait le critiquer, ça joue beaucoup moins bien.
Alors, je compare même pas avec Wenger, ça joue beaucoup moins bien que l'année dernière. Arsenal
aussi.
Donc c'est plus embêtant.
Les dernières finalistes de la Ligue Europa.
On sent pas une dynamique.
Ça joue moins bien, mais chaque année, si vous regardez bien, faut être honnête, chaque année, depuis même les 3-4 dernières saisons de Wenger, en première partie de saison, ils ont été très rapidement distancés du Big Four et on disait, cette année, voilà, c'est la fin, c'est la dernière année de Wenger, il va falloir changer, il va falloir ceci, il va falloir cela. Au final, ils sont toujours qualifiés pour une Coupe européenne. Le jeu à Arsenal, finalement, c'est pas ce qui prédomine le plus sur les dernières années. Ce qui prédomine surtout, c'est un gros secteur offensif avec des buteurs qui sont au rendez-vous et une défense très moyenne qui handicape un peu les résultats globalement sur la saison. Et c'est encore ce qui se passe aujourd'hui. Il y a quelques semaines, quand Aubameyang marquait des buts, on disait, finalement, Arsenal et Chelsea, c'est mieux que ce qu'on pensait, c'est sur le podium. Là, ça va moins bien depuis 3-4 matchs. Il suffit que dans un mois ou deux, ils se mettent à remarquer des buts pour que ça remonte. Et au final, je veux pas dire qu'on oubliera l'épisode Granit Xhaka parce qu'on va pas l'oublier, on en parlera quand même beaucoup moins.
En revanche, si Arsenal rate à nouveau la qualification en Ligue des Champions, là, les dirigeants vont pas oublier.
Ils virront Unai Emery, ils virront certains joueurs. Mais oui, mais la vérité,
c'est qu'il ira
que...
jusqu'à la fin de la saison, Unai Emery.
Ah non, on n'est pas sûr qu'il ira jusqu'à la fin de la saison.
En plus, l'affaire Xhaka peut poser des problèmes dans le vestiaire. Puisque si jamais, là, on attend toujours des excuses qui ne viennent pas de Xhaka.
On attend de savoir s'il va toujours être capitaine.
Il a été convoqué par les dirigeants, hein, donc c'est pris très au sérieux. Il est possible qu'il soit sanctionné lourdement en interne. Et ça peut creuser des divisions à l'intérieur du vestiaire,
attention,
puisque certains joueurs sont proches de lui, humainement parlant, je veux dire.
C'est ce que je veux dire, c'est qu'il est très apprécié dans le vestiaire, Granit Xhaka. Le public ne l'aime pas.
Certains
mais
sont allés chez lui hier, pour le soutenir, il fait des photos.
Dans le vestiaire, il est très apprécié, Granit Xhaka. Je ne dis pas qu'il ne va pas avoir une sanction interne, je pense qu'il l'aura de toute façon pour l'exemple. Mais se débarrasser de lui, au-delà du fait qu'il est prolongé jusqu'en 2023, que Unai Emery l'aime bien, il est très soutenu par les autres joueurs. Et ça, c'est aussi la problématique.
Un vrai défi en termes de management.
C'est un ancien, il est là depuis 2016. C'est un taulier parce que c'est un des joueurs les plus âgés, les plus expérimentés de l'effectif et par son poste aussi. Donc, c'est pas évident à gérer. C'est lui qui a mis le club dans une sale situation, mais ça pourrait rejaillir sur Emery et sur tout le groupe.
Surtout que c'est pas
une très bonne limonade, comme on dit.
Emery n'est pas un entraîneur de conflit, c'est pas son truc. Il a beaucoup de mal à gérer ce genre de choses. Moi, je pense que ça peut lui jouer énormément de tours, beaucoup plus que le résultat.
Tout à fait.
Cette affaire.
Bon, le salut sera peut-être africain du côté du nord de Londres, Aubameyang, Pepe, un doublé en Ligue Europa et puis impliqué dans les deux buts de son équipe.
Absolument. Mais Aubameyang qui pourrait reprendre le brassard d'ailleurs, du coup.
Suivre. On suivra ça bien sûr, bien attentivement sur RFI. Merci Philippe Doucet, merci Naïm Moniol, merci Patrick Juillard, merci Thomas Moulin. Radio Foot revient demain. Et bien sûr, merci à David Finzel qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Laurent Salerno qui était à la réalisation. Excellente soirée à l'écoute de la Radio du Monde.